Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Vous avez la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur le Mali. Pas d'élection avant le retour de la paix et dissolution pure et simple de tous les partis politiques. On en parle évidemment dans 30 minutes. Mais d'abord le journal. Jeanne Bartoli, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Il était au cœur de vives tensions entre l'administration Trump et l'Ukraine ces dernières semaines. Les États-Unis ont annoncé hier soir la signature d'un accord sur l'accès aux minerais et à d'autres ressources ukrainiennes. Accord présenté comme un partenariat entre les deux pays avec la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Nous sommes à Washington dans un instant. Nouveaux échanges de tirs ce matin entre l'Inde et le Pakistan malgré l'appel à la désescalade des États-Unis et de nombreux autres pays. Les deux puissances nucléaires sont au bord de l'affrontement militaire depuis l'attentat survenu dans la région disputée du Cachemire sous contrôle indien. En République démocratique du Congo, la justice militaire a officiellement saisi le Sénat pour demander la levée de l'immunité de Joseph Kabila, soupçonné de lien avec la branche politique du M23. Et puis les travailleurs à l'honneur en ce 1er mai partout dans le monde. En France, l'épicentre des manifestations de la gauche devrait être Dunkerque, où le sort des salariés d'ArcelorMittal inquiète. Un partenariat économique entre les États-Unis et l'Ukraine. Voilà comment Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor, a qualifié l'accord trouvé avec l'Ukraine sur les ressources minières du pays. Un texte qui acte la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine via l'exploitation de ressources. Kiev, de son côté, précise qu'elle conserve l'entière propriété et le contrôle de ses ressources. Le texte a été paraphé hier à Washington en présence de la ministre ukrainienne de l'économie, Yulia Siridenko, et cet accord semble, en tout cas officiellement, Guillaume Nodin, satisfaire tout le monde.
Cette fois, pas de déraillement de dernière minute comme lors de la réception explosive de Volodymyr Zelensky en février. Les deux pays vont investir à 50% chacun dans ce fonds qui va servir à la reconstruction du pays. Et pour cela, les États-Unis pourront accéder aux ressources minières et énergétiques de l'Ukraine. Le fonds sera basé sur des investissements nouveaux, des concessions d'exploitation nouvelles et non sur de l'existant. Il n'est à aucun moment question de rembourser l'aide fournie depuis 2022 par les États-Unis. Cela n'empêchera pas non plus la candidature ukrainienne à l'entrée dans l'Union européenne. Le fonds créé doit aussi répondre aux meilleurs critères de transparence et de gestion. C'était un point important pour les républicains américains qui ont souvent dénoncé le niveau de corruption dans le pays. Si l'accord n'est pas assorti de garanties de sécurité au sens strict, le département américain du Trésor insiste néanmoins sur le fait que l'administration Trump est attachée à un processus de paix centré sur une Ukraine libre, souveraine et prospère à long terme. Et ce message s'adresse explicitement à la Russie. Ces derniers jours, Donald Trump a fait à plusieurs reprises part de sa frustration alors que les missiles russes continuent à tomber sur les villes ukrainiennes. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et justement, sur le terrain en Ukraine, l'armée russe a tiré un drone sur une zone résidentielle à Odessa, dans le sud, tuant deux personnes. Il y a 15 blessés, attaque qualifiée de massive par les services d'urgence. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu hier avec le premier ministre pakistanais et le chef de la diplomatie indienne, alors que le Pakistan a dit avoir des preuves crédibles que l'Inde préparerait une frappe après l'attentat commis au Cachemire sous contrôle indien. Hier, Marco Rubio a encouragé le Pakistan à condamner officiellement cette attaque. Devant les risques d'une escalade militaire, les appels au calme et à la retenue se multiplient comme Bastin.
Ce mercredi, des mouvements de troupes de l'armée indienne ont été signalés le long de la frontière disputée avec le Pakistan dans le Cachemire, là où des échanges de tirs ont lieu depuis plusieurs jours. La perspective d'une attaque de l'Inde s'est précisée avec d'autres réunions stratégiques. De son côté, le Pakistan affirme que l'Inde pourrait entrer en action aujourd'hui même. S'agit-il de traquer les terroristes, d'intervenir à la frontière ou tout simplement de punir le Pakistan? Ajay Shukla, ancien colonel et expert militaire indien.
Le Pakistan a laissé la situation dégénérer jusqu'à une confrontation frontale avec l'Inde, à la fois sur le plan diplomatique et frontalier. Tout le monde est à cran et il est trop tard pour des excuses. L'opération est soigneusement planifiée dans les centres opérationnels de l'armée, mais ne sera pas partagée publiquement pour tabler sur l'effet de surprise. Ce qui est important pour l'Inde, c'est de se fixer des objectifs modestes mais réalisables.
achievable.
Si le risque d'escalade entre les deux puissances nucléaires est dans tous les esprits, l'ensemble des partis politiques indiens soutiennent le gouvernement. Le Pakistan est un ennemi juré et les attentats du 22 avril dans le Cachemire ont soudé l'opinion derrière l'idée d'une riposte. Kombastin, Bangalore. RFI.
Et ces dernières heures, l'Inde et le Pakistan ont de nouveau échangé des tirs au Cachemire sous contrôle indien. À l'écoute d'RFI, 10 heures passées de 5 minutes en République démocratique du Congo. À présent, la justice militaire a officiellement saisi le Sénat pour demander la levée de l'immunité de Joseph Kabila, l'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie, soupçonné de lien avec l'alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23. Il est poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
La justice militaire se réfère au statut des sénateurs à vie de Joseph Kabila pour enclencher la procédure. Les faits reprochés sont postérieurs à son mandat présidentiel. Et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, d'affirmer que les éléments sont réunis.
La justice a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables. Qui était l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie, Joseph Kabila, dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires, en ce moment, dans la partie est du pays. Nous invitons l'ancien chef d'État à venir affronter la justice congolaise.
Le Sénat, dominé par la majorité présidentielle, doit maintenant se prononcer. L'autorisation des poursuites permettrait aussi à la justice d'agir sur les patrimoines de l'ancien président.
La justice a répertorié tous les biens, mobiliers et immobiliers, du sénateur à vie Joseph Kabila, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La justice attend l'autorisation expresse de poursuite pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois.
Les partis de Joseph Kabila suspendus par le gouvernement contestent ces accusations. Ils parlent depuis plusieurs semaines d'affabulation. Reste à savoir si le Sénat donnera son feu vert dans un contexte marqué par la médiation internationale autour du M23 et des appels à l'apaisement politique. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
En Israël, à présent, plusieurs routes ouvertes ce matin. Les incendies se stabilisent dans la région de Jérusalem, même si les pompiers luttent toujours contre les flammes. Israël qui a reçu le soutien de l'Italie ou encore de la Croatie face à ces feux de forêt les plus importants de ces dernières années. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déclaré l'urgence nationale en prévenant que les feux pourraient se propager à la ville de Jérusalem. L'actualité, c'est aussi des manifestations organisées un peu partout dans le monde pour ce 1er mai, journée internationale des travailleurs. En France, les syndicats et la gauche ne manquent jamais le rendez-vous. Plus de 200 rassemblements sont attendus, notamment à Dunkerque où le sort des salariés d'ArcelorMittal est dans toutes les têtes. Victorien Villaume.
Dunkerque, l'endroit où il faut être cette année pour la gauche. C'est dans cette ville moyenne du nord de l'Hexagone que la CGT appelle à une grande manifestation pour défendre les salariés du sidérurgiste ArcelorMittal. 600 postes menacés au total, 180 rien qu'à Dunkerque, où l'entreprise est considérée comme un poumon économique. Aux côtés des syndicats, donc, des élus de premier plan à gauche, le secrétaire national du PS, Olivier Faure, mais également l'écologiste Marine Tondelier seront présents au rassemblement matinal. Également sur place, la députée insoumise Aurélie Trouvé. Depuis l'annonce du projet de suppression d'emplois il y a une semaine, la gauche affirme que la production d'acier est un impératif stratégique en France et appelle l'État à nationaliser les usines du pays. Une mesure pas à l'ordre du jour du côté du gouvernement qui privilégie à ce stade deux leviers, l'innovation et l'investissement.
Victorien Villaume du service politique d'RFI, les discussions avec ArcelorMittal qui ont déjà commencé, notre responsabilité et qu'aucun site ne ferme en France. Voilà ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Décidément, la marque Tesla du milliardaire américain Elon Musk n'a plus la cote en France. Les immatriculations de la marque continuent de s'effondrer dans l'Hexagone en avril, moins 59%. Enfin, il y avait du football hier soir, du grand spectacle même dans la deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions. L'Inter Milan est parvenu à accrocher le FC Barcelone qui jouait à domicile 3-3. Beaucoup de buts donc, Lamine Yamal notamment dans un numéro en solitaire ou Marcus Thuram avec une talonnade de génie. Match retour, ce sera mardi prochain et ce sera à suivre évidemment sur RFI et on imagine que Juan Gomez sera également devant son écran même si son club de cœur a été éliminé, le Real Madrid.
Ouais, bon,
non, arrêtez.
Je précise.
Bonne journée quand même. Merci de nous avoir informés. Il est 10h10 à Paris, 8h10 en temps universel.